Tic-tac, tic-tac, il est 17h à Antananarivo et 15h à Paris, vous écoutez RFI. Charlotte Hydrac pour le journal. Bonjour Charlotte.
Bonjour Pascal Paradou, c'est une forme d'art oratoire. Aussi Emmanuel Macron donne rendez-vous aux Français ce soir pour une allocution. Le président va s'adresser au pays sur l'Ukraine et la sécurité européenne dans un moment de grande incertitude et de grands défis, dit-il. Avant un sommet européen extraordinaire sur la sécurité, demain, l'Allemagne lance les grandes manœuvres pour renforcer son armée avec des investissements records. Et quoi qu'il en coûte, en Israël, le nouveau chef d'état-major de l'armée prévient, la mission contre le Hamas n'est pas terminée, dit-il. Alors qu'après le blocage de l'aide humanitaire dans la bande de Gaza, l'Afrique du Sud accuse l'État hébreu d'utiliser la famine comme arme de guerre. Et puis les objectifs de croissance de la Chine, c'est comme l'an dernier, Pékin vise environ 5% en 2025, malgré la guerre commerciale avec les États-Unis. Rendez-vous est pris, 20h heure de Paris, pour ce message aux Français du président Emmanuel Macron. Ce sera à suivre aussi sur RFI. À la veille d'un sommet européen extraordinaire prévu demain à Bruxelles, le chef de l'État va évoquer la situation internationale sur fond d'incertitude en Ukraine et pour la sécurité européenne. Valérie Gasse.
Ce soir, Emmanuel Macron va jouer la carte de la solennité pour expliquer aux Français les enjeux de la négociation pour tenter de sortir de la guerre en Ukraine. Cette prise de parole télévisée intervient après d'autres exercices de communication du président de la République pour planter le décor de ce qu'il pense être un tournant dans les relations internationales. Emmanuel Macron a d'abord choisi de s'entretenir avec la presse quotidienne régionale, presse écrite de proximité, dans une interview dont l'objectif était de poser un diagnostic en affirmant que la Russie représentait une menace existentielle pour les Européens. Puis, autre support, autre cible sur les réseaux sociaux. Le chef de l'État a répondu en direct aux questions des internautes, leur donnant les clés de la négociation avec Donald Trump et les messages qu'il allait lui faire passer à la Maison Blanche où il devait être reçu. Aujourd'hui, c'est à tous les Français que le chef de l'État veut s'adresser pour expliquer que la situation en Ukraine, le désengagement militaire annoncé par Donald Trump en Europe font de la défense une priorité pour laquelle il va falloir faire des efforts. Bref, sensibiliser l'opinion française et montrer qu'il est à la manœuvre.
Et la défense est une priorité affichée par l'Allemagne. Le futur chancelier, le conservateur Friedrich Merz, a annoncé des investissements sans précédent pour les dépenses militaires et l'économie du pays. Un accord a été trouvé avec ses alliés du parti SPD, quoi qu'il en coûte, autrement dit, quitte à ouvrir les vannes budgétaires, à sortir de l'orthodoxie historique. C'est un virage et cela devrait inspirer les autres démocraties européenne, selon Nils Schmidt. Il est député du Parti social-démocrate.
La réforme du frein à la dette allemand devrait aussi inciter la Commission européenne et nos partenaires européens à se mettre d'accord sur un infléchissement des règles du pacte de stabilité européen pour donner la priorité aux dépenses des fonds supplémentaires. Donc cela devrait être mené en parallèle et c'est pourquoi l'annonce de Madame von der Leyen est très bien vue en Allemagne et j'espère que les fonds supplémentaires allemands nous amèneront à une consolidation et une coopération plus étroite entre partenaires européens. Il faut renforcer le secteur de défense européen et maintenant l'Allemagne débloque les fonds nécessaires, donc il devrait être dépensé dans une perspective européenne.
Voilà Nils Schmidt, député du parti allemand SPD, invité d'Anne Kantner à la mi-journée. Nouvelle donne donc après la suspension de l'aide militaire américaine à l'Ukraine et après le coup de froid entre Washington et Kiev, même si d'après Donald Trump, le président ukrainien Volodymyr Zelensky lui a envoyé une lettre en faveur d'une reprise du dialogue et pour des négociations en vue d'une paix durable avec la Russie. Le président américain l'a dit lors de son discours au Congrès hier soir, le premier de son second mandat. Il a aussi une nouvelle fois réaffirmé ses visées sur le Groenland pour un rattachement du territoire autonome danois aux États-Unis. Nous ne sommes pas à vendre, a réagi aujourd'hui le premier ministre du Groenland. Et puis sur le Panama, Donald Trump a aussi annoncé la future reprise du canal du Panama par les États-Unis. Il ment, écrit le président panaméen, le canal du Panama n'est pas en cours de restitution. Malgré la guerre commerciale lancée par les États-Unis, malgré les nouveaux droits de douane, la Chine, elle, annonce un objectif de croissance ambitieux, identique à l'an dernier, environ 5% pour 2025. Annonce du Premier ministre à l'ouverture de la session annuelle de l'Assemblée nationale populaire à Pékin. Cléa Broderst.
Le Premier ministre Li Qiang met en garde. L'économie mondiale traverse une période difficile. Le commerce extérieur et le secteur des technologies sont sous pression. Protectionnisme, barrières douanières et tensions commerciales avec les États-Unis, c'est ce qui préoccupe les députés comme Lin Chunshao qui représente Hong Kong.
Il y a des défis à relever, mais nous n'avons pas peur et nous restons calmes. Nous trouverons une bonne solution gagnante pour tous. Et comme c'est le deuxième mandat de Donald Trump, nous pouvons prédire un peu mieux sa stratégie. Nous essaierons de trouver un accord, mais il doit s'agir d'un accord raisonnable.
Pékin affiche sa confiance. L'objectif de croissance reste fixé à 5%, un pari ambitieux alors que le secteur immobilier est en crise et que la consommation peine à repartir. Pour soutenir l'économie, la Chine prévoit un déficit budgétaire de 4% du PIB, une décision rare qui traduit une volonté claire, stimuler l'investissement et relancer l'activité. Autre priorité, la défense. Le budget militaire grimpe de 7,2% dans un contexte international toujours plus tendu. Sans chercher l'affrontement, la Chine se prépare à une forte concurrence économique et stratégique. Enfin, elle accélère son autonomie technologique pour réduire sa dépendance aux technologies occidentales et contourner les sanctions américaines et européennes. Pékin fixe ainsi son cap pour 2025 entre stabilité, résilience et autosuffisance. Cléa Broderst, Pékin, RFI.
En Israël, le nouveau chef d'état-major a prévenu contre le Hamas, dit-il, la mission de l'armée n'est pas terminée. Alors que la trêve dans la bande de Gaza semble très fragilisée, l'état hébreu a bloqué l'entrée de l'aide humanitaire dans le territoire. Il estime que cette aide est devenue la première source de revenus du Hamas. Mais l'ONU, de son côté, tire la sonnette d'alarme et avertit que cette décision menace tout simplement la vie des Gazaouis. Muriel Paradon.
Après l'entrée en vigueur du cessez-le-feu le 19 janvier, les Gazaouis ont pu enfin souffler avec l'entrée massive de l'aide humanitaire. L'UNRWA et le Programme alimentaire mondial ont distribué des rations de nourriture pour un mois, affirme Antoine Renard, directeur du PAM pour la Palestine. Mais depuis dimanche et le blocus imposé par Israël, la situation redevient préoccupante.
Vous avez 90% de la population dans Gaza qui sont en insécurité alimentaire sévère. Donc le risque que vous avez, c'est au plus la fermeture des différents points d'entrée durera, au plus nous serons à risque par rapport justement au fait que des denrées de base pourraient venir à manquer.
Le gouvernement israélien affirme que l'aide humanitaire est détournée par le Hamas. Faux, rétorque Antoine Renard du PAM.
Je peux vous confirmer que l'assistance que nous donnons aux populations arrive aux populations. C'est le cas avec tout ce qui est les différents repas chauds. C'est le cas avec les boulangeries. Vous avez directement maintenant 25 boulangeries qui fonctionnent, même parfois avec trois shifts. Au fait, les gens peuvent et les populations de Gaza peuvent pour l'instant aller acheter du pain.
Mais avec le risque de pénurie, les Gazaouis font des stocks et les prix des denrées alimentaires ont à nouveau explosé dans le territoire palestinien.
Muriel Paradon et l'Afrique du Sud accusent de son côté Israël après ce blocage de l'aide humanitaire, accusent donc l'État hébreu d'utiliser la famine comme arme de guerre. Le fragile accord de paix au Soudan du Sud montait les tensions entre les forces loyales au président Salva Kiir et celle fidèle au vice-président Riek Machar, les deux dirigeants qui se sont partagés le pouvoir. Le ministre du pétrole et le numéro 2 de l'armée proche de Riek Machar ont été arrêtés par des hommes du chef de l'État. Au Japon, le pire incendie de forêt depuis 50 ans dans le nord-est du pays, il continue de sévir. Les flammes ont fait un mort et 4000 personnes ont été évacuées dans la région d'Iwate. Les pompiers sont toujours à pied d'œuvre avec un petit espoir de répit face aux pluies en ce moment dans la zone. Un début de carême tout particulier pour les catholiques en ce mercredi des cendres, alors que le pape François est toujours hospitalisé à Rome. Il est dans un état stable. Dans son dernier bulletin, le Vatican indique qu'il s'est bien reposé la nuit dernière. Et puis la superstar du basket, LeBron James, 40 ans, est désormais 50 000 points marqués en NBA après un match des Lakers à domicile. Il est le premier à franchir ce cap symbolique. 15h10 ici à Paris, on retrouve maintenant Anne-Cécile Bras pour ses pas d'Yvan. Bonne émission.